Auto 360. Voici la chronique luxe, prestige et histoire avec Philippe Lagu.
Oh, ça va être important, ça va être important. On va parler de véhicules haut de gamme, hein, Philippe?
Oh oui, et une marque très importante dans l'histoire de l'industrie automobile américaine, et je dirais même dans l'histoire de l'industrie automobile tout court. Je fais une petite parenthèse, Daniel, si tu me permets, pour ceux et celles qui nous écoutent. Si vous voulez voir les photos des modèles dont il va être question aujourd'hui, je vous invite à aller voir les photos que mon ami Germain Goyer a trouvées et qu'on a mis sur ma page Facebook. Vous avez aussi des photos de la Lincoln MKZ dont on va parler un petit peu plus tard sur mon site philippelagu.com.
Philippe, en entrée de jeu, là, j'ai dit, oh, je t'ai fait une blague en disant, Lincoln, c'est du haut de gamme, ça. On essaie un peu du côté de chez Ford. Il me semble que là, avec la nouvelle Continental, on a réussi à hausser la barre, mais ça a comme toujours été des Ford un peu déguisés, un peu, est-ce que je me trompe, ou on veut pas vraiment passer la barre du très haut de gamme, puis on veut rester dans le mi-luxe?
Tu te trompes à moitié.
OK.
On va voir ça.
OK.
Parce qu'on va commencer par le commencement. Lincoln, c'est une marque qui est créée en 1917 par nul autre que Henry Leland. Je dis nul autre, Daniel, parce que ce même Henry Leland est aussi le fondateur de Cadillac. Hein? Mm-hmm. Détroit, au début du 20e siècle, là, c'est petit. Okay. Tu vois que tout le monde connaît tout le monde et tout le monde travaille avec tout le monde. Donc, les deux marques de prestige américaines ont le même géniteur. C'est quand même pas banal.
Ben non.
Monsieur Leland, lui, qui est originaire du Vermont, est un industriel américain très important au début du 20e siècle. Pendant sa jeunesse, il travaille dans des usines, entre autres pour Colt, le célèbre fabricant d'armes. Et c'est chez Colt qu'il va découvrir la machinerie de précision. Et c'est là-dedans, ensuite, qui va faire fortune. La première entreprise qu'il va fonder se spécialise dans les machines-outils, ce qui l'amène à travailler dans divers domaines, dont l'automobile, qui est alors une industrie naissante, mais aussi une industrie en plein essor, en plein boom.
Ouais.
Et en 1901, il y a un client qui va faire appel à ses services pour améliorer les transmissions de ses voitures, et le client en question, c'est Ransom E. Olds, le fondateur de la marque Oldsmobile.
Okay.
Et Olds, lui, va être tellement satisfait du travail de Leland qui va lui demander de fabriquer les moteurs de ses voitures qui étaient fabriquées jusque-là par les frères Dodge.
Hein? Ben voyons.
Tout est dans tout.
Ben, je comprends.
L'année suivante, donc, en 1902, deux hommes d'affaires viennent rencontrer Leland pour lui demander conseil. Les deux hommes veulent liquider. Ils veulent mettre en liquidation la Henry Ford Company parce que son directeur technique, qui était aussi leur partenaire, Henry Ford, vient de claquer à la porte. Alors, ben Leland, lui, il va leur proposer plutôt de réoutiller l'usine et de lancer une voiture dont il a déjà le moteur.
Okay.
Et la nouvelle voiture va être baptisée Cadillac en hommage au fondateur de Détroit, Antoine de la Motte Cadillac.
Je suis en train de comprendre là, que Cadillac étaient fabriqués dans les premières Cadillac étaient fabriquées dans une usine Ford.
Mais c'était pas Ford au début. Regarde.
Ben non,
là, tu brûles les étapes.
OK.
Un peu. Pressé, c'est les gars de char tout le temps. Hein? Alors, Leland va finalement décider d'y consacrer tout son temps. Et son entreprise, à lui, va fusionner avec Cadillac en 1905. Et c'est là, Daniel, qu'entre en scène un autre personnage clé de l'industrie automobile américaine. C'est William Crapaud Durand. Crapo, c'est R-A-P-O, là.
Oui.
C'est pas Crapo comme le Crapo qu'on connaît.
Et Crapo Durand, par exemple, on le connaît bien.
Ben, c'est ça. Et Crapo Durand, ben, c'est le fondateur de General Motors.
Ça, c'est GM, oui.
Exact. Et à ce moment-là, Buick et Oldsmobile font déjà partie du portefeuille de marque de GM. Puis Durand, lui, il voit le potentiel de Cadillac. Puis il fait une offre d'achat à Henry Leland et à ses deux partenaires. Donc, le 29 juillet 1909, l'entente est conclue pour la modique somme, à l'époque quand même, 5,7 millions de dollars. Et Henry Leland et son fils restent aux commandes de Cadillac, même s'ils viennent de vendre à GM. Sauf qu'un désaccord avec Crapaud Durand va les amener à quitter GM, finalement, pour de bon, en 1917. Là, on y arrive à Ford, tu vas voir. On est à la fin de la Première Guerre mondiale et le gouvernement américain a demandé à GM de construire des moteurs d'avion à partir des V8 Cadillac. Et Durand, lui, a refusé. Ça ne l'intéressait pas, cette conversion-là. Et c'est ça qui va causer le départ des Leland, en fait, père et fils, qui acceptent, eux, de construire des moteurs avec l'aide d'un prêt de Washington, là, du gouvernement américain. Donc, nouvelle entreprise, nouveau nom. Henry Leland va choisir Lincoln en hommage au défunt président américain, qui est aussi le premier président pour lequel il a voté. Mais la fin de la guerre va arriver. On est en 1917, hein? Alors mm-hmm. la fin de la guerre arrive l'année suivante, et plutôt que de produire des moteurs d'avion, Lincoln va revenir aux automobiles. Le problème, c'est que la Lincoln L, la toute première Lincoln, coûte cher. 5 000 $, ce qui est considérable pour l'époque, là, mm-hmm. en comparaison, une Ford Model T coûtait 850 $. Alors, en 1920, la compagnie doit trouver à nouveau du financement, mais les actionnaires veulent pas que la compagnie s'endette plus. Et c'est là, Daniel, que la boucle va être bouclée. Okay. Cadillac, rappelez-vous, a été créé par Henry Leland mm-hmm. sur les fondations de la première compagnie d'Henry Ford.
C'est ça.
Alors, une dizaine d'années plus tard, Ford, lui, est devenu un des principaux constructeurs de Détroit, puis est un des rares qui a les reins assez solides pour acheter toutes les actions de Lincoln. Alors, Leland, lui, est visiblement un bon vendeur parce qu'il réussit non seulement à vendre Lincoln à Henry Ford, mais il le convainc aussi de le laisser aux commandes. Ça, ça ne durera pas longtemps, par exemple, parce que les méthodes de Ford et celles de Leland ne sont pas compatibles. Puis quelques mois plus tard, il va quitter Ford pour prendre sa retraite. Okay. Il faut dire qu'en 1922, Henry Leland a déjà 79 ans, ce qui est un âge plus que vénérable pour l'époque, là.
Absolument.
Alors, ça fait donc 95 ans que Lincoln appartient à Ford. On peut dire que les 50 premières années ont été vraiment les plus glorieuses. Parce qu'à part Cadillac, là, les marques de prestige américaines vont toutes disparaître une après l'autre, que ce soit Dawsonburg, Pierce Arrow, Packard. Cadillac et Lincoln, elles, vont survivre à des événements comme le crash boursier de 1929 et la Deuxième Guerre mondiale parce qu'ils appartiennent à des grands groupes industriels. C'est ça qui va faire toute la différence. Puis il faut aussi souligner que Lincoln va être le fournisseur officiel de la Maison-Blanche pendant 50 ans, de 1939 à 1989. Tous les présidents américains de cette période vont se déplacer en Lincoln, de mm-hmm. Roosevelt jusqu'à Ronald Reagan. Puis évidemment, l'une des limousines présidentielles qui va passer à l'histoire va être associée à une tragédie. Hein? Je parle évidemment de la Continentale dans laquelle se trouvait le président Kennedy lorsqu'il a été assassiné. Et cette limousine-là aura été, pour des raisons évidentes, hein, la dernière décapotable utilisée par un président des États-Unis.
Eh oui.
À partir des années 80, ben, ça a été plus difficile pour Lincoln. On a eu une longue suite de modèles, tous moins réussis les uns que les autres. On peut vraiment parler de traversée du désert. Ça a été peut-être même la Lincoln Versailles qui a été un petit peu l'initiatrice de ça. La Lincoln Versailles, pour vous mettre en contexte, ça a été comme un peu la Cadillac Cimarron de Lincoln. On avait pris une vulgaire Ford de Granada et on l'a transformée en Lincoln. Et là, t'avais absolument raison avec ton commentaire du début. À partir de ce moment-là, on s'est mis à faire ça beaucoup chez Lincoln. Donc, contrairement à Cadillac, Lincoln a mis du temps aussi, beaucoup de temps, à se réinventer. Le premier Navigator a été un pas dans la bonne direction parce que Lincoln a vraiment visé dans le mille avec ce modèle-là. Ils ont comme anticipé la popularité exponentielle des VUS de luxe. Mais depuis ce coup de circuit, ça stagne un peu chez Lincoln. On a eu quelques bonnes idées, mais pas toujours couronnées de succès comme la Lincoln LS, mais plusieurs modèles décevants aussi, les Continentales des années 80-90, la Zephyr, la MKS. Et je termine avec la MKZ, parce qu'on va s'en parler tantôt dans notre, mm-hmm. dans notre prochain bloc. Mais la MKZ, c'est une voiture qui me redonne espoir pour le futur de Lincoln. La nouvelle Continentale aussi. On s'en reparle un petit peu plus tard. Dans
Et le nouveau Navigator qui s'en vient, qui va être assez spectaculaire.
Alors, tout à fait raison.
Merci Philippe, on se reparle un petit peu plus tard. Pause nouvelle et au retour, on prend vos appels. Restez là, Auto 360. Oui, nous sommes de retour avec Philippe et on parle du Lincoln MKZ, Philippe.
Tu vas sans doute être d'accord avec moi, Daniel. Hein? Un des bons côtés de notre métier, c'est qu'on peut souvent avoir des surprises. Des fois des bonnes, des fois des moins bonnes, mais à chaque année, on essaie des nouveaux modèles. Puis
ben oui.
Forcément, ben, y en a qui nous étonnent, que ce soit pour les bonnes ou les mauvaises raisons. Mm-hmm. Et c'est ce qui m'est arrivé lorsque j'ai conduit la Lincoln MKZ ce printemps. Alors, commençons par le commencement, encore une fois. En ce qui concerne la MKZ, on pourrait dire que c'est scène 1, prise 2 pour Lincoln. La première tentative, ça n'avait pas été très, très convaincant. Tu te rappelleras qu'à l'origine, cette voiture-là s'appelait la Zephyr en 2006.
C'était une fusion, maladroitement déguisée en Lincoln.
À peine maquillée, là, on faisait quasiment le coup de la Lincoln Versailles ou de la Chevrolet Cimarron dont on a parlé dans la chronique précédente tantôt. Alors, on s'est dépêché de la changer de nom, puis finalement, on l'a complètement redessinée en 2012 pour l'année modèle 2013. C'était déjà mieux, puis depuis ce temps-là, c'est un peu un work in progress. Il y a des améliorations décoration ici et là. Cette année, ben, on lui a fait carrément un facelift. Et concrètement, ça donne quoi? Ben, pour être très honnête, j'avais pas de grandes attentes, mais on va voir ce que ça a donné. D'abord, sur le plan esthétique, en redessinant la partie avant, on a éliminé, à mon humble avis, la seule chose qui clochait. L'ancienne calandre, c'était vraiment affreux. Là, ça ressemblait à une planche à râper. C'est encore la calandre qu'on a sur les VUS de Lincoln, d'ailleurs. Et la nouvelle calandre, qui est aussi celle de la nouvelle continentale, ça, c'est beaucoup plus réussi. Ça y donne ça y donne des airs de Bentley, un petit peu, là. Et moi, faut le dire. Puis la MKZ... sous sa forme actuelle, moi, j'aime tout de cette carrosserie-là. D'abord, son profil, que je trouve bien effilé, mais très découpé aussi. Moi, j'aime ça beaucoup, beaucoup comme style. Puis sa partie arrière plongeante, qui est très réussie. Puis surtout, ce que j'aime de la MKZ, c'est qu'elle ne ressemble pas aux autres berlines de luxe. Elle a une allure qui est très distinctive, qui lui permet de ressortir du lot. Et ça, en ce qui me concerne, c'est une qualité de plus en plus rare. Hein? C'est quand, la dernière fois, Daniel, qu'on a vu un design original pour une berline de luxe allemande ou japonaise? Ça fait longtemps, hein?
Ça fait longtemps.
À l'intérieur, ben, c'est décoré avec beaucoup de goût. On est loin, 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 tant mieux, du kitsch là, des années 60 et des années 70 et 80, là, ou encore des habitacles inodores, incolores et sans saveur des années 90. On est dans une voiture de luxe, ça se voit, ça se sent, puis on pourrait pas deviner que c'est une américaine. La finition est vraiment, vraiment belle, elle est soignée et la qualité de construction m'a vraiment impressionné.
Ah oui, c'est moderne, c'est de bon goût, c'est vraiment techno, là, surtout l'absence de levier de vitesse. Là,
je suis content que tu m'amènes là-dessus, parce que je veux te parler du système Sync, le Sync 3, qui est, moi en tout cas, un de mes préférés, une des meilleures interfaces multimédia de l'industrie automobile. C'est très convivial et sois sûr d'une chose, Daniel, si je le trouve facile à utiliser, tout le monde va le trouver facile.
Et moi, j'ai arrêté de m'ostiner avec. Les premiers Sync, t'essayais d'y parler.
Non, mais là...
Puis là, tu finissais en beau maudit. La conversation virait, là.
Oui, mais on est rendu ailleurs.
Ça fonctionne très bien.
Très bien. Et pour ceux que ça intéresse, qui sont un petit peu plus techno peut-être que toi et moi, ben, il est désormais compatible en plus avec Apple CarPlay ou Android Auto. Hein? C'est quand même là qu'on s'en va. Puis on a aussi, et ça me fait plaisir, on a tout de même remis des commandes manuelles, des bons vieux commutateurs pour la radio et la climatisation. Et ça, mes amis, c'est une très bonne idée. Parce que les commandes à effleurement, c'est pas toujours efficace. Et surtout, ça peut être très distrayant. Même si on peut opter pour la commande vocale, ben tu l'as dit, des fois, c'est un peu exaspérant. Il y a beaucoup de gens qui le font pas parce que c'est plus long aussi. Et le résultat, ben, c'est que les gens taponnent sur l'écran pendant qu'ils conduisent. Et ça, c'est aussi dangereux, en ce qui me concerne, que de tenir un cellulaire en conduisant. Puis, tu sais, il faut pas oublier, Daniel, l'âge de la clientèle cible. Là. J'en fais partie, puis on n'est pas des geeks de la techno, là.
Non.
Alors, tu sais, bon. Et l'habitacle, ben, a d'autres qualités et non les moindres. Il est spacieux, il est confortable, il est très bien insonorisé. On est quand même dans une Lincoln. Les sièges sont très confortables aussi, autant à l'avant qu'à l'arrière. Et ça, je l'ai personnellement vérifié. J'ai fait un bon bout assis en arrière, là, exprès pour voir ça avait l'air de quoi. C'est un peu serré pour la tête pour les personnes de grande taille à cause du toit ouvrant panoramique. Et en plus, moi qui n'aime pas les toits ouvrants, celui-là, je l'ai aimé. Justement parce que c'est un toit panoramique et c'est assez bien réussi comme système. La MKZ...
Pour la mécanique,
oui. Oui, tout à fait. Ça s'opère très, très bien. Alors, j'y arrive à la mécanique. Ouais. On se décline... La MKZ se décline plutôt en trois saveurs, régulière, santé et épicée. La version santé, ben c'est la version hybride, hein, c'est la version écolo. Je précise tout de suite qu'elle ne s'adresse pas à tout le monde. Il faut y aller selon ses priorités. Mais bon, si vous avez une conscience écologique et que la consommation... justement, est une de vos priorités, bien, la MKZ, avec sa boîte CVT, promet une consommation moyenne là, inférieure à 6,5 litres au 100 km. Il y a trop de chiffres. Excuse-moi. Mais si la puissance est un facteur important, par contre, là, vous n'êtes pas à bonne adresse. 188 chevaux, c'est un peu juste pour une voiture de ce format et de ce poids.
Faut faire des choix.
Exact. Et la version régulière, elle, la version de base, on pourrait-on dire, vient avec un 4 cylindres de 2 litres turbo compressé qui génère 245 chevaux, c'est déjà mieux, et ce qui assure déjà aussi des réponses plus dynamiques que la version hybride, mais la version épicée. C'est celle que j'ai eu le bonheur de conduire, a droit, elle, à un nouveau V6 de 3 litres turbo qui génère, lui, 400 chevaux. Là, on jase. Et si j'ai tant aimé la MKZ, c'est en grande partie grâce à ce moteur qui est assurément un des meilleurs de l'histoire de Ford et de Lincoln, j'ose le dire. Le V6, il est puissant, il est généreux en coupe, mais il est aussi très souple. Puis honnêtement, Daniel, là, j'y ai trouvé aucun défaut. Je l'ai adoré dès la première accélération.
Ce moteur-là est sublime. Attends-toi à ce qu'il se retrouve tout partout.
Ouais, ça, c'est fort possible.
On va le voir tout partout chez Ford. Ça, c'est certain.
Mais au moins,
on l'a placé dans le Continental.
Mais pour l'instant, il est exclusif à Lincoln.
On va l'envoyer partout.
C'est fort possible. Ouais. Et il est jumelé en boîte de vitesse à 6 rapports pour toutes les versions, sauf évidemment la version hybride avec le CVT. Là. J'ai beaucoup aimé cette boîte qui assure des passages très fluides. Je l'ai trouvé un peu lente par moment. C'est à peu près tout ce que je peux y reprocher. Et c'est aussi la preuve qu'on n'a pas besoin d'avoir des transmissions à 8, 9 ou 10 rapports. Une bonne boîte à 6 rapports bien étagée, ça fait parfaitement le travail. Et évidemment, puisqu'on est au Québec, ben je souligne que la traction intégrale est au menu. Hein, ça fait partie.
Ça, c'est le fun.
Oui.
En terminant rapidement, le comportement.
Regarde, Lincoln ne veut pas faire de BMW, puis c'est très bien ainsi. Mais attention, si vous pensez que c'est mou, vous vous trompez, parce que la MKZ repose quand même sur un très bon châssis, ce qui est fondamental, et sa tenue de route, que, sans être sportive, là, est quand même très rassurante. On est à des années-lumière des Lincoln qu'on a pu conduire dans les décennies précédentes, puis je dirais même que cette berline-là a de l'aplomb, beaucoup d'aplomb, et assez pour contenter des conducteurs exigeants. Sa conduite est celle d'une voiture du 21e siècle, là, il n'y a aucun doute là-dessus, et ceux qui pensent que les Américains, toutes marques confondues, font encore des gros bateaux, sont déconnectés de la réalité, et ils n'ont pas conduit d'Américaine depuis longtemps, tu seras peut-être d'accord avec moi là-dessus.
Absolument. Comment veux-tu être en désaccord avec toi?
Ben, ça arrive. Inquiète-toi pas. Ça arrive, puis t'as parfaitement le droit à bord de ça.
Absolument. Merci.
Ceci étant dit, ben écoute, pour conclure rapidement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Lincoln veut pas faire de BMW, ne prétend pas être une mangeuse d'allemande, et la MKZ propose un heureux compromis, j'irais jusqu'à dire le meilleur des deux mondes, là, si on veut rester dans les clichés. Et elle a un gros argument en sa faveur, je termine avec ça, c'est son rapport qualité-prix, parce que notre véhicule d'essai qui était ultra équipé coûtait 67 000 $, toutes options incluses. Tu vas me dire que c'est pas abordable, c'est sûr, on est dans les voitures de prestige, mais compare avec une voiture de format comparable et de puissance comparable, c'est plusieurs milliers de dollars de moins que les Allemandes de ce créneau-là. Alors moi, l'avenir de Lincoln, il me semble plutôt radieux. Les nouveaux modèles sont vraiment réussis, puis la table est mise pour une nouvelle rivalité Lincoln-Cadillac, comme dans le bon vieux temps.
Philippe, pour en savoir davantage, pour en voir davantage, pour en lire davantage, on va où?
Sur philippelagu.com, où on a plusieurs photos justement de la Lincoln MKZ.